Mode d'emploi, l'émission hebdomadaire d'AC Agir ensemble contre le chômage. Sur FPP, fréquence Paris pluriel, 106.3 MHz, à 20h30, tous les vendredis.
Tous les chômeurs ne tirent pas sur des policiers ou sur des gendarmes. Il faut les traiter comme des trafiquants et comme des voyous.
Bonsoir, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires avec l'équipe historique. Donc ici c'est Gilles au micro. Salut Christophe.
Bonsoir à tous et à toutes.
Et Claude à la technique. Voilà, donc ce soir nous parlerons bien sûr des chiffres du chômage en Europe, de la durée du travail, du cassage des 35 heures dans les faits, des salaires, de l'exemple allemand, un contre-modèle pour nous, et bien sûr des profs dans la rue, qui étaient donc mardi dans la rue, et les élèves à la maison, voilà.
Quand on veut expliquer l'inexplicable, c'est qu'on s'apprête à excuser l'inexcusable.
Alors, selon Eurostat, donc l'office statistique de l'Union européenne, il y a donc 24 millions de chômeurs en novembre 2011. L'Espagne, a priori, a atteint le plus haut niveau avec 22% d'actifs au chômage. Le chômage des jeunes a augmenté de 22%. Le bon élève est l'Allemagne, bien sûr, avec 8,10%. Bien sûr, il faut considérer qu'en Allemagne, c'est le travail précaire qui a pris la place du travail salarié aujourd'hui. Donc c'est pour ça que les chiffres ont baissé, hein, ça va de soi. Il faut aussi savoir qu'un jeune sur deux en Allemagne est au chômage. Voilà, ça c'est important, c'est un chiffre qui cause pour lui-même, par lui-même. Hein.
Oui, non, mais ça appelle plusieurs remarques. D'abord, 22% de chômeurs en Espagne, c'est l'équivalent des pays sous-développés. Donc c'est considérable. C'est là la conséquence d'un certain nombre de politiques économiques que nous, on n'a pas arrêté de dénoncer au cours de ces dernières années, donc des politiques ultralibérales où plus de compétitivité engendre l'opulence d'un petit nombre pour une précarisation, voire un accroissement de la pauvreté pour la masse, hein, une stratégie qu'on a dénoncée à plusieurs reprises. Et un certain nombre d'économistes ont pointé du doigt ce type de logique. Mais si tu veux, ça, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, parce que là, on peut rebondir sur un de nos sujets, hein, pour ouvrir le débat par rapport à ça, sur les autres chiffres du chômage, c'est le rapport de l'Organisation internationale du travail, qui a épinglé la politique allemande, parce que on nous vante le modèle social allemand. Alors, je vais rappeler une chose, c'est que Gerhard Schröder, soi-disant socialiste, hein, a mis en place avant l'arrivée de Madame Merkel, une logique de déflation, c'est-à-dire une logique d'enlèvement de la masse salariale. Donc ça ça a commencé par des mesures sociales, notamment grâce au rapport aux mesures Schwartz, où on disait aux assistés sociaux, si vous ne travaillez pas, vous aurez des jobs à 1 euro, hein, donc contrat précaire, reconductible, selon tant de mois, avec la logique faire en gros les boulots que les autres Allemands ne veulent pas faire. Ça, il y a eu des mouvements sociaux, parce qu'il faut savoir que les syndicats allemands sont beaucoup plus structurés, mais ça s'explique aussi par l'arrivée de l'Allemagne de l'Est, où il y avait un niveau de vie, un événement dans le niveau de vie qui était tel par rapport à l'Allemagne de l'Ouest, qu'effectivement, ces boulots à 1 euro ont trouvé preneur, de fait. Mais lorsque on regarde le rapport de l'Organisation internationale du travail, on constate plusieurs choses. D'abord, il y a effectivement une amélioration de la compétitivité des exporteurs allemands. Donc on parle non pas du marché intérieur, de ce qu'on vend et ce qu'on consomme dans son pays, mais à l'extérieur. C'est dû au fait que les entreprises allemandes ont profité du Made in Germany, de sa haute qualité, pour exporter auprès de ce qu'on appelle les pays émergents, donc Chine, Inde, Brésil. Et d'après M. Nicolas Sarkozy, président des Français, c'est un modèle à suivre. Sauf que voilà, le problème, c'est que les coûts du travail, du fait de ces délocalisations de fait, hein, les coûts du travail allemand ont fortement chuté depuis près d'une décennie, ce qui a pour conséquence un manque à gagner au niveau du produit intérieur brut et de la viabilité des collectivités territoriales. C'est-à-dire que, bah, effectivement, on a beaucoup vendu à l'extérieur, mais on vend pas au niveau du marché intérieur. Donc, les collectivités se retrouvent en n'ayant pas assez d'argent, assez de trésorerie à la fin de l'année. Donc, ça engendre des mesures de déflation sociale, c'est-à-dire d'enlèvement des droits. Et on arrive au final, hein, c'est la stratégie du pire que Madame Klein, je crois, avait déclaré là-dessus, où on va effectivement pressuriser à mort les salaires dans le marché intérieur. C'est aussi cette logique-là aujourd'hui qu'on trouve en France, hein, directement, hein, puisque on peut parler des RSA, ce qu'on veut mettre au travail.
Alors, je rappelle quand même pour les auditeurs que Hartz, c'est, pour la petite histoire, c'est l'ancien directeur de Volkswagen qui a introduit dans le droit allemand, dans le droit du travail allemand, 25% de précarisation parmi les salariés dans l'automobile allemand. Et c'est bien sûr l'automobile qui vend le mieux, l'industrie allemande est excédentaire, hein. Donc c'est pour ça qu'on la prend en exemple. Mais ça veut dire aussi que c'est l'exemple français qui considère qu'aujourd'hui, avec Sarkozy, tu viens en parler, considère que c'est l'exemple allemand qu'il faut suivre. Ça veut dire que le cassage des 35 heures promis par M. Nicolas Sarkozy va dans ce sens de précarisation d'une grande masse de la population salariale, hein, on va dire ça comme ça, parce que effectivement ça veut dire que Monsieur Hartz a introduit 25%, donc une personne sur quatre salariés, il y a une personne précaire sur quatre salariés, donc une personne sur deux parmi les jeunes de moins de 25 ans, c'est quand même énorme.
Oui, alors ça a une conséquence, parce que comme le dit le rapport de l'Organisation internationale du travail, c'est que cette politique de déflation salariale, ben, ça a rompu la consommation, parce que les gens ont moins d'argent pour consommer, donc après les choses de base, hein, tout ce qui est loyer, vêtements, nourriture, déjà d'une part, et alors ben ça crée quoi? Ça crée un accroissement considérable des inégalités de revenus. C'est-à-dire que alors qu'on a produit plus et on a vendu plus, on se retrouve avec des gens qui ont moins et une minorité qui a beaucoup plus. Évidemment, sachant que cette minorité-là vient principalement qui s'est enrichi du domaine de la finance, puisque c'est ce commerce extérieur, ces produits qui ont été vendus à l'extérieur rapportent à ceux qui sont actionnaires des entreprises. Donc en fait, le salarié est de fait mis de côté. Alors le problème, comme le note le Bureau international du travail, l'Organisation internationale du travail, pardon, l'OIT, c'est que ça crée un marasme économique prolongé. Ça veut dire que pour eux, on n'aura pas une régulation de la crise financière avant 2015, au mieux. Hein. Et ça a créé, de fait, tu viens de l'évoquer, une récession massive du marché du travail. Hein. Mais ça va aussi créer un certain nombre de choses. C'est que parmi les statistiques disponibles, il y a quand même une personne, Juan Somavia, directeur général donc du Bureau international du travail, qui a dit mais l'équité doit être la boussole pour sortir de cette crise, parce que si les gens sont prêts à comprendre et à accepter des choix difficiles, sauf que ils voudraient que ils estiment que chacun prend sa part du fardeau. Donc les gouvernements, pour lui, hein, je le cite, devraient pas avoir à choisir entre les exigences des marchés financiers et les besoins de leurs citoyens. Donc on arrive à cette équation où une économie virtuelle exigeant un maximum de profit le fait aux dépens des salariés. Donc la stabilité financière et la stabilité sociale doivent aller de pair, pour lui, il a bien raison. Sinon, ce n'est pas seulement l'économie mondiale, mais aussi la cohésion sociale qui seront en péril. Je rappelle, pour la petite histoire, que le Time, cette année, l'année dernière, a déclaré les personnes de l'année le contestataire.
Tout à fait. Il faut savoir juste par rapport justement, donc on parle du problème allemand avec M. Hartz, mais on peut également parler des gens qui ont été licenciés en France. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont fermé leurs portes dû à l'austérité, effectivement, à la concurrence internationale. Hein. Donc on peut dire, par exemple, Cifrance donc a perdu 872 salariés, le Jabi, l'entreprise de lingerie, a délocalisé à 93% ses entreprises, ce qui est quand même assez important. Petroplus, le groupe pétrolier, 550 emplois en moins. Je vous fais une petite liste comme ça, c'est sympa. Cofinoga, spécialiste du crédit à la consommation, moins 443 emplois, donc c'est des gens qui sont au chômage, hein, faut le savoir. Voilà, avec le triple A, donc merci Standard & Poor's, hein, avec la perte du triple A, ce sont pas moins de 4200 entreprises de plus de 10 salariés qui sont en faillite. C'est la tribune qui le dit. Hein. Il y a plus de 35% de faillites des PME de plus de 50 salariés, ce qui est quand même énorme, quoi. C'est hallucinant. La tribune, toujours elle, qui est au bord de la fermeture d'ailleurs, parle de main d'orange également avec 132 emplois en moins, dont 102 intérimaires. L'industrie ardéchois du textile, 120 emplois en moins. Enfin bref, c'est hallucinant. Donc effectivement, l'exemple allemand est suivi par la France. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne solution.
Eh ben oui, alors pour rebondir à ça, il faut savoir que Raymond Torres, qui est le directeur de l'Institut international donc des études sociales au niveau de ce fameux bureau du travail, dit ben il y a deux raisons essentielles qui expliquent cette situation plus sombre qu'elle ordinaire. C'est que la première, c'est que les mesures de relance budgétaire qui ont été utiles dans un premier temps pour prévenir une crise plus grave ont pas contribué à faire redémarrer l'économie. C'est une manière diplomatique, si tu veux, de dire les grandes boîtes, les entreprises du CAC 40 et autres, ont mis le couteau sous la gorge à l'État en disant si vous payez pas et donnez pas de l'argent, un blanc-seing, un chèque en blanc, on délocalisera. C'est clair que ça a été ça, ça a été un mécanisme structurel qui a aussi bien joué en France, en Allemagne, en Suède, dans la zone euro, quoi. Et enfin, la seconde cause plus fondamentale encore, c'est que les raisons profondes, effectivement, de la crise n'ont pas été correctement traitées, puisqu'on vient de l'évoquer. C'est la baisse du pouvoir d'achat, la baisse généralisée des salaires, au profit d'une croissance exponentielle des dividendes des actionnaires. Or, ce rapport affirme que la coexistence d'une croissance, donc de la production de richesses par l'endettement privé dans certains pays développés et d'une croissance fondée uniquement sur des exportations étrangères, se révèle être un véritable talon d'Achille au niveau mondial, parce que d'abord, la reprise n'en aura pas, parce que c'est dans les pays émergents qu'on va consommer. Hein. En Chine, en Inde, au Brésil, on a une croissance à deux chiffres. Donc, et du coup, ben, les revenus du travail vont continuer à augmenter moins vite que les gains de productivité, puisque le but du jeu, c'est de gagner le plus d'argent possible par rapport à des salariés aujourd'hui qui, dans des pays développés, sont considérés comme étant hors-jeu car trop payés. Donc on est vraiment dans un moins-disant social. Donc, quelles sont les solutions du Bureau international du travail? Parce qu'il y en a. Je vais te les proposer et on va les évoquer, si tu te permets,
oui,
maintenant.
Oui, bien sûr.
Donc d'abord, il y a le besoin d'avoir le renforcement des politiques axées sur l'emploi de façon à diminuer le risque de chômage. Le fait que le retour du plein emploi, que ça soit par l'abaissement du temps de travail, la redistribution des richesses par différentes taxations, etc., un revenu garanti pour tous, c'est une solution. C'est une solution macroéconomique. Il y a aussi des mesures, mais évidemment, à soutenir les populations les plus vulnérables, notamment les jeunes, par des politiques de formation. Alors ça, on peut en discuter, parce que au moment du plein emploi en France et en Europe, dans les années 50 et 60, quand les patronats avaient besoin de former, ils mettaient la main à la poche. Aujourd'hui, c'est l'État qui met, les collectivités, c'est la puissance publique qui met à la poche.
Il faut savoir que la masse salariale, c'est zéro, pour la formation, c'est 0,8% de la masse salariale qui permet donc tout ce qui est formation dans le cadre de l'entreprise. Hein. Et donc, effectivement, il y a possibilité, toutes les entreprises peuvent former leurs salariés, voire même les salariés qui ne sont pas encore chez eux, mais qui recherchent éventuellement. Donc l'argent est là. Le problème, c'est une question de volonté,
oui, voilà.
Volonté.
Alors,
politique, en fait.
C'est-à-dire que là, la troisième piste, c'est des mesures de protection sociale orientées vers l'emploi. Or, je rappelle un fait historique, c'est que c'est le gouvernement de M. Bérégovoy, ministre de l'économie et des finances.
En 82, oui.
En 86, oui, en 82. 82-84, donc le tournant de la rigueur socialiste, qui a exaucé les vœux des financiers et des banquiers en permettant la financiarisation générale des entreprises du CAC 40, puisqu'en 85 a été créée la bourse avec, au départ, valeur 1000 points pour les groupes du CAC 40 et tout. Donc voilà, donc c'est le début de la fin des protections sociales, puisque je rappelle encore qu'il y a 15 ans, il fallait une autorisation administrative des inspecteurs du travail pour pouvoir licencier.
Très juste.
Ce qui n'est plus le cas.
Alors, pour aller dans ton sens, à propos de l'OIT toujours, l'OIT critique Berlin, hein, l'ONU également, puisque l'ONU estime que les politiques économiques et sociales menées depuis 10 ans par l'Allemagne ont clairement joué contre la croissance et les emplois chez ses partenaires européens. C'est-à-dire que l'Allemagne, en étant bonne élève chez elle pour l'emploi, en créant beaucoup de précarité, finalement a plombé ses frères, les pays frères en fait de l'Europe, qui ne peuvent pas suivre parce qu'effectivement ils n'ont pas les mêmes économies, c'est pas la même chose. Donc ça c'est quand même un truc qu'il faut noter. Alors, il faut également dire que l'Allemagne, effectivement, a réussi son partage du travail, apparemment, selon certaines sources, par un développement du travail à temps partiel, on en a déjà parlé. Cela aurait permis, en outre, une augmentation significative du pouvoir d'achat moyen, le PIB en volume par habitant, une augmentation du taux d'emploi, donc précaire toujours. Autrement dit, la France a tout faux, faut le savoir. Il aurait mieux fallu de suivre sa voisine allemande. Moi, je considère que, comme j'ai vu Sarkozy à la télévision et qu'il disait qu'effectivement l'Allemagne, c'était le pays exemple qu'il faut absolument suivre, nous pouvons considérer, nous qui sommes association de chômeurs, que 25% de chômeurs, 25% de précaires parmi les employés, c'est pas une bonne solution pour l'emploi. Voilà, donc ça c'est dit. Tu voulais rajouter quelque chose là-dessus?
Ah ouais, alors il y a un point en ce qui concerne donc le Bureau international du travail qui parle effectivement des lois Hartz. Donc on rappelle que les réformes Hartz, c'est le nom donné à une réforme majeure du marché du travail qui a eu lieu en Allemagne entre 2003 et 2005 sous le mandat de Monsieur Schröder. C'était une réforme qui au départ visait la lutte en fait contre le chômage volontaire. Et qui supprimait les trappes à inactivité, qui poussaient en fait pas mal de membres de la population active à vivre des allocations chômage plutôt que d'accepter un emploi dont le salaire était jugé trop faible. Ça, c'est le discours officiel. Alors, on doit d'abord une chose, c'est que ça ne s'est pas fait sans hâte, puisqu'il y a eu énormément de manifestations, notamment au niveau de l'Est du pays, puisqu'il y avait un différentiel de niveau de vie considérable. Il y avait et en fait il s'avère que ça n'a pas créé d'emploi si ce n'est mettre en œuvre tout simplement une précarisation comme on en parle.
Pongo en tus manos abiertas mi guitarra de canto. Martillo de los mineros.
Et oui, c'était Inti Illimani, un groupe chilien, révolutionnaire, bien sûr, que j'affectionne particulièrement, puisque c'est une histoire personnelle aussi. Absolument à écouter, à réécouter, à acheter, etc., etc. C'est vraiment des gens qui, en fait, ils sont obligés de faire leur disque en Italie parce qu'ils sont considérés comme... ils sont condamnés à mort par les dictateurs sud-américains, enfin surtout chiliens à l'époque. Ils sont toujours mal vus dans leur propre pays, bien aimés par leur population, mais l'État du Chili considère qu'ils sont toujours là. Si jamais ils sont attrapés, ils seront sans doute emprisonnés. Donc voilà. Donc ce sont des chants qui sont proches de nous et il faut les écouter souvent et toujours. Voilà. Ça c'est la petite parenthèse. Voilà, c'est une question de cœur. J'aime bien cette musique, j'aime bien ces chanteurs. Voilà. Donc on revient sur cette émission, nous sommes toujours dans mode d'emploi, fréquence par pluriel 106.3 FM, mode d'emploi, émission des chômeurs et précaires. Nous en parlons maintenant évidemment de la prestation de Nicolas Sarkozy, surtout sur un fait, il nous a parlé des salaires des gens qui allaient pouvoir négocier avec leur propre patron de la mobilité et surtout du fait qu'ils pouvaient éventuellement passer de 35 heures à 30 heures voire 25 voire 20 heures. Alors il paraîtrait, selon Monsieur Sarkozy, qui est un fin limier et un homme extrêmement d'une intelligence éclairée, que ce serait négocié. Alors nous, on pense que ça va être plutôt imposé, mais nous parlons de là où nous sommes, donc on ne sait pas vraiment, mais apparemment, ce sera plutôt imposé que négocié. Donc ce sont des salaires qui vont, selon les branches, évaluer, ça va être de 45 heures à 15 heures, selon les besoins du service. Donc on arrive vraiment dans une précarisation de l'emploi qui va arriver à son summum, je pense.
Non mais Monsieur Sarkozy devrait carrément supprimer et le droit de grève et le droit des vacances.
Oui, effectivement.
Là, ce serait mieux. Non, il y a plusieurs choses par rapport à M. Nicolas Sarkozy et sa politique. D'abord, il a déclaré en 2007 qu'il serait président du pouvoir d'achat. On a vu ce que ça a donné. Alors, il s'est réfugié derrière l'argument de la crise, mais la crise a bon dos. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont fait des bénéfices mirobolants et elles n'ont absolument pas été taxées, puisque je rappelle par exemple que l'entreprise Total, dont un des actionnaires ayant droit de veto est l'État, a fait des bénéfices mirobolants et aujourd'hui paye au niveau des impôts des sociétés 9% de ce qu'elle dégage comme bénéfice. Donc voilà, sachant qu'une personne comme vous et moi paye beaucoup plus d'impôts. Comparativement, hein, avec le jeu des localisations hors Union européenne, tel siège social appartenant à telle branche hors Union européenne, etc. Deuxièmement, je suis surpris. Il y a trois choses qui me surprennent, mais je vais faire un peu de la périphrase. C'est ce qu'ont pensé les différentes représentants politiques, puisqu'on est en période électorale. Oui, des grandes réformes. Pourquoi M. Sarkozy, en arrivant au pouvoir, ne les a pas faites? C'est une première question. Deuxième question, pourquoi cette improvisation à trois, quatre mois des échéances présidentielles, sachant que il ne faut pas oublier que le temps que des traités d'application, des décrets d'application sortent, il se passe au moins 6 mois. Donc en gros, juridiquement, mais le canard enchaîné le rappelle, c'est deux, laisse, brouf. C'est ce qu'on appelle une opération de communication.
Oui.
Sauf que, en termes d'opération de communication, nous propose M. Sarkozy, non pas de taxer les super profits des entreprises du CAC 40 et de la finance, même modestement, mais de taxer tout le monde, y compris les plus modestes, par l'intermédiaire de la TVA sociale en augmentant la taxe à la valeur ajoutée, qui est un impôt indirect et totalement injuste. Sachant que M. Sarkozy, puisqu'on parle d'argent, moi je rappelle un certain nombre de choses. La loi Séguier sur les nouveaux logements a bénéficié à un certain nombre de nouveaux propriétaires, notamment les mesures de Robien, qui n'ont pas rapporté d'argent et quasiment pas créé d'emplois au niveau des BTP, donc ça te fait à peu près 2,5 milliards. L'amendement Copé sur les plus-values en fonction de l'immobilier, 2,5 milliards donnés en plus. L'amendement sur la restauration qui a pas créé d'emploi, 2,5 milliards en plus. Bouillie fiscale de niveau 1 et niveau 2, plus autre exonération.
500 millions, je crois.
750 millions.
750 millions, oui.
On en arrive à des cadeaux, mais le troisième plan de rigueur, tu vois, économiser encore 12 milliards, ben, ça y est, moi je te les trouve. Voilà. Donc et sans freiner la croissance et tout. Donc là, il y a une contradiction. C'est-à-dire qu'on dit d'un côté, oui, le bouclier fiscal, vu le temps, étant donné qu'on n'a pas dégagé de produit intérieur brut supplémentaire ou une croissance qui est tellement faible par rapport à la richesse produite que les caisses sont vides, mais on applique toujours la même directive. Et au final, à 3-4 mois des élections, on fait des mesures courageuses. Français, encore des efforts. Ça commence un peu à bien faire.
Non, et surtout, il faut savoir que quand même ceux qui participent qui sont actionnaires des entreprises du CAC 40 ou les patrons du CAC 40 doivent mettre la main à la poche et participer à la générosité nationale. C'est-à-dire qu'ils doivent mettre l'équivalent en pourcentage de ce qu'ils touchent. C'est-à-dire qu'ils touchent.
On ouvre un débat, c'est la fameuse réforme Piketty. L'économiste Piketty, c'est son petit prénom, je sais plus.
Je sais plus non plus.
Voilà, qui dit, il est nécessaire de repenser l'avoir fiscal de l'État et des collectivités territoriales, sachant que les tranches sont injustes. On a 0,001%, en gros les gens qui ont plus de 15 millions d'euros de patrimoine, qui sont exonérés d'un certain nombre de charges
fiscales, etc.
La notion de bouclier.
Et puis il y a les niches aussi, évidemment.
Et il y a les niches. Ouais. Bon, alors tu vas me dire que dans chaque niche, il y a un chien qui est mort. Mais enfin, c'est pas la maman smicarde ou qui vit avec moins de 1500 euros qui peut se payer des cours pour le petit dernier. Mais ça a vu le coup que ça. Et pourtant, on a fait une sacrée niche fiscale pour ça, en termes d'impôts, etc., etc. Donc, il y a toute une réforme à faire. Il y a un développement d'une fiscalité nettement plus harmonieuse avec 14 tranches au niveau de l'impôt sur le revenu. Puis il y a une deuxième réforme à faire au-delà des niches, si tu veux, c'est la vérification contre pas simplement la taxation des super profits financiers, mais aussi tout ce qui est travail non déclaré, etc. C'est-à-dire qu'en Belgique, par exemple. Les services fiscaux de la Belgique, les services de police mais également de justice et d'inspection du travail, ont mis en place un logiciel commun où, toutes les semaines, ils appuient sur un bouton et toutes les feuilles de paye, etc., sont passées à la moulinette. Oui. Et dès qu'il y a de la gruge, c'est repéré. Du coup, il y a quasiment plus de fraude fiscale et sociale, enfin, beaucoup moins qu'en France.
Oui.
Et lorsqu'on interroge les hauts fonctionnaires de Bercy par rapport à cette situation qui est ubuesque, alors on dit, mais pourquoi vous n'êtes pas capable de mettre en place un tel logiciel sur la France?
Oui.
On a une fin de non-recevoir en guise de réponse.
Oui, peut-être que la Belgique a peut-être raison, mais moi j'émets une réserve pour tout ce qui concerne le fichage, surtout des gens qui sont salariés, donc qui sont qui sont pas des grandes fortunes, on va dire, des gens qui travaillent. Moi, je serais plutôt pour le fichage des gens qui sont... Je suis contre le fichage d'une façon générale, mais s'il faut ficher quelqu'un, ce serait plutôt ficher les gens qui sont des bandits en col blanc, si tu veux, c'est-à-dire les grands patrons du CAC 40, pas spécialement ni leurs salariés, ni les chômeurs, ni les RSA, ce qu'on considère qui sont responsables de la de déficit de Pôle emploi, tu vois, c'est un petit peu, il y a quand même quelque chose qui me gêne dans cette histoire, c'est quand tu parles de la Belgique, c'est que tout le monde sait, même ceux qui nous écoutent le savent, c'est qu'on est quand même dans un monde très policé, très marqué par effectivement les gens qui vont faire de la délation, qui vont... Moi, je suis contre ça, et on le dénonce dans cette émission en général. Effectivement, la Belgique a peut-être raison, mais alors dans ce cas, il faut vraiment le faire d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il faut surtout ne pas s'attaquer aux plus pauvres d'entre nous, mais s'attaquer aux plus riches, eux bénéficient d'un certain nombre la justice est de leur côté, en fait, voilà. Hein, pour l'instant.
Le logiciel qui est mis en place est un logiciel de vérification des déclarations fiscales des entreprises. Il y a procédure qu'à partir du moment où des choses, des éléments suspects apparaissent. Donc on n'est pas dans un flicage à outrance, on est dans un devoir de vérification qui chaque année rapporte des milliards d'euros à l'État. Parce que la dernière qu'à la TVA sociale et puis la TVA, c'est une chose qui coûte des dizaines de milliards chaque année à Bercy. Voilà, t'as des gens qui arrivent, qui disent voilà, j'achète dans tel pays, un pays comme la Chine par exemple, tant de téléviseurs, machin, je les fais passer dans un autre pays, je déclare avec des fausses factures qu'ils ont payé leur TVA sociale, maintenant c'est dans l'Union Européenne, j'arrive en France, j'ai pas payé ma TVA. Ça s'appelle la tactique du carrousel, tu vois. Ça coûte des milliards. Donc, il y a cette mesure-là à prendre, et bien sûr d'autres mesures, mais voilà.
Très bien. Alors moi, il faudrait justement qu'on parle un petit peu de la proposition, parce qu'on est encore sur le décryptage un petit peu de ce grand show que Nicolas Sarkozy a fait devant 8 millions de téléspectateurs sur 8 chaînes différentes. Donc là, c'est vraiment...
Ça vaut un France-Italie. Oui.
Et en plus, il s'est pas déclaré candidat. Donc voilà, donc son temps de parole n'est pas comptabilisé. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc s'il y a des auditeurs qui ont peut-être une réponse, qui nous appellent au 01 40 05 06 10 pour nous donner une réponse à cette question. Mais il nous a parlé de la TVA sociale, alors quelque chose qui est magnifique, puisque la TVA sociale, en 2007, il disait qu'il ne le ferait jamais. Et là, on a vu effectivement un document à l'appui qu'il l'avait bien dit. Et dans sa prestation télévisuelle, il a dit le contraire. Il a dit qu'il ne l'avait jamais prononcé, cette phrase, et qu'il n'avait jamais pensé à la TVA sociale. Or, la TVA sociale apporterait. La TVA sociale, donc, augmenterait de 1,5 point. A priori, donc on passera à 22,5, je crois que c'était, on était à 19,6, donc ce serait 20 et quelques pourcents. Donc ça passera à 21 et ça n'aurait aucune incidence sur l'augmentation des prix. Alors je voudrais bien connaître, alors peut-être que j'y connais rien en économie, alors peut-être que je viens de découvrir que je n'y connaissais rien en économie, mais j'aimerais quand même comprendre comment cela se fait-il qu'il n'y aurait pas d'augmentation des prix. À mon avis, c'est la logique même que si on augmente la TVA, le prix augmente. Enfin, a priori...
Ben oui, c'est le cas.
Oui, c'est le cas, voilà.
C'est le cas. Donc, non mais on est dans un mensonge. On est dans un mensonge. Depuis le 1er janvier, la taxe liée à l'alimentaire, aux produits de première nécessité ou autres, a augmenté, enfin, tout ce qui était taxé à 5,5% en termes de taxe à la valeur ajoutée, a augmenté à 7%. Le prix de Medi va augmenter. Le prix de certains de mes disques qui sont hors droit d'auteur a augmenté. Un certain nombre de produits ont augmenté, de fait. C'est pas vrai. Il y a les entreprises aujourd'hui, ce qui n'a pas trop augmenté pour l'instant, parce que si tu veux, les petits patrons n'ont pas eu le temps de faire la manip entre 5,5 et 7%, c'est le prix des paniers repas. Mais moi, je peux te sortir un ticket d'un restaurant d'entreprise, bien sûr que ça a augmenté.
Un ticket, c'est quoi?
C'est tout simple.
Toi, tu payes la moitié du ticket, en fait. Hein.
Non, j'ai une subvention pour un
on va tout savoir sur.
C'est comme ça. J'ai une subvention pour une chose, et là, tu vois, taxe à 7%. Donc TVA, parce que c'est du domaine de l'alimentaire, je peux dire que il y a un mois et demi de ça, c'était à 5,5%, c'était 20 centimes de moins. Voilà.
D'accord.
Donc ça a augmenté. Donc ça augmentera. La preuve,
voilà. Alors, je sais pas si t'as vu Guénaud, parce que Guénaud est pas bon. En ce moment, je regarde les émissions politiques et je trouve ça vraiment fandard parce que c'est vrai que ça me fait marrer, quelque part. Parce que, il y a une somme de mauvaise foi de part et d'autre, d'abord des journalistes qui ne font pas leur métier parce qu'ils posent des questions tellement connes que le gars en face répond ce qu'il veut et puis ça passe comme une lettre à la poste. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas au fond de la question, c'est-à-dire qu'ils ne poussent pas. Il pousse pas à la bonne réponse en fait. Hein. Il donne simplement.
Ça s'appelle l'art de la politique et de la communication. L'élection présidentielle, c'est un exercice de communication qui est évident.
Alors, Guénaud a dit qu'effectivement, il n'y aurait pas d'augmentation des prix.
Mais non, c'est impossible. C'est mécanique. Donc, la question elle est réglée. Donc, par rapport à ça, bon, non, mais on va rentrer dans une période. Moi, je pense que de toute façon. On rentrer dans une période de la surenchère. Mon plan à 110 milliards, mes 60 propositions, mon nouveau pacte social,
c'est ça.
ma révolution verte qui donne de l'emploi. Enfin bref, voilà quoi. Non, bon, là par rapport à ça, bon, il y a aujourd'hui, en tout cas, il y a deux camps qui s'affrontent. Il y a ce que j'appelle les austères, qui disent il faut serrer la ceinture, sachant qu'on sait très bien que cette logique politique qui est faite depuis 15-20 ans ne marche pas. Et il y a actuellement un parti qu'on peut pas nommer parce qu'on peut pas, si on reçoit un seul de ses représentants, on est obligé de prendre des gens aussi qu'on n'aime pas.
Non, on n'invitera personne d'hommes politiques.
Par contre, un jour, on peut inviter des économistes par rapport à ça, qui disent non, il faut un plan de relance de la consommation et une augmentation des salaires. Donc voilà, c'est le monsieur qui dit ça, c'est lui qui dit très justement qu'on ne combat pas la finance avec un pistolet à tire-bouchon. Voilà. Ouais. Voilà.
Bon, je vois qui c'est à peu près.
Voilà. On va pas le nommer.
Très bien.
Mais aujourd'hui, les gens commencent à réfléchir. Il a 10-11% d'intention de vote.
Ah oui.
Espérons que ça monte.
Mais c'est peut-être pour lui qu'il faut voter. En fait, on sait jamais. Hein.
Ouais, sûrement, oui.
Hein c'est... Donc, on s'écoute si on peut une nouvelle chanson et puis on reprendra la parole par la suite. Merci.
Ce matin-là, en me levant le noir, maintenant qu'il n'y a plus de dents, qu'est-ce que je vais lui dire à ma pipi? Alors maintenant, me lève, je peux.
Et oui, un peu de gaieté dans ce monde de brut. C'était bien sûr Henri Salvador qui chantait le magnifique, le grand Boris Vian. Ça va de soi, ça fait toujours plaisir de l'entendre, ce monsieur. Et ça s'appelle le blues du dentiste. Merci Claude qui était à la technique, qui me parle dans le micro. Voilà. Donc on va parler bien sûr, on va revenir en Europe si ça te dérange pas, Christophe.
On fait une émission pour ça.
Hein. Voilà, on fait une émission pour ça. Donc on va parler un petit peu. Il paraît qu'en France, on travaille pas assez. travaille pas assez d'heures. C'est peut-être pour ça.
Alors c'est un article qui a été publié sur le site de l'Humanité et qui est très intéressant. C'est durée du travail en Europe, l'enfumage généralisé de Cox et Ericsson. Alors, c'est quoi? Dans un document, des cabinets d'études économiques proches du MEDEF essaient de crédibiliser la campagne de la droite et des milieux d'affaires, faisant de la loi sur les 35 heures la source de tous les malheurs de la France. Malheur économique s'entend. Alors, donc, le fameux Co-Rexecot, cabinet d'études économiques proches de la droite du MEDEF, a publié mercredi dernier, il y a trois semaines de ça, une étude qui tente à prouver que la durée effective annuelle du travail des salariés à temps plein est en France la plus faible avec la Finlande de tous les pays européens. Français, feignants, unissez-vous. Enfin, un grand classique. Puisque pour eux, on ne travaillait que 1679 heures en 2010, soit 224 heures de moins qu'en Allemagne, 134 heures de moins qu'en Italie et 177 heures de moins que le Royaume-Uni. Bref, le T-time est un temps de productivité considérable. Sauf que bon, alors ce cabinet essaie de donner du crédit à la campagne de Nicolas Sarkozy et de Madame Parizeau, qu'on ne présente plus. Dans la vie, tout est précaire, y compris l'emploi. Comme quoi, les Français ne travailleraient pas assez à cause de la loi sur les 35 heures qui aurait prétendument ruiné la compétitivité du pays. Alors, je rappelle pour info qu'en période de crise, les entreprises du CAC 40 avaient fait plus de 112 milliards nets d'euros d'impôts après nets d'impôts de bénéfices l'année dernière. Bon, pour des pauvres, c'est un peu bizarre. En limitant la quantité du travail, une partie de nos atouts démographiques a été perdue, ce qui a bridé le pouvoir d'achat par habitant. À l'opposé, alors là on en revient toujours au modèle, tu vois, au modèle allemand, l'Allemagne aurait réussi son partage du travail qui s'est opéré par un développement du travail à temps partiel. Cela aurait permis, outre une augmentation significative du pouvoir d'achat moyen, produit intérieur brut par habitant, ben voyons, une augmentation significative du taux d'emploi. Autrement dit, la France a tout faux. Mieux aurait valu qu'elle limite sa voisine et qu'elle donc donne un coup d'accélérateur encore plus brutal au développement de la précarité. Bah oui, la précarité, c'est ce qu'il y a de mieux. Sous la forme du travail à temps partiel imposé, ça aurait permis de baisser le taux de chômage. Hein. Bah oui, un chômeur qui travaille 4 heures, c'est plus un chômeur de catégorie 1. Voilà. Hein, 4 heures par semaine. Et puis, ça aurait dopé la France. C'est vrai qu'avec 100 euros, parce que 4 heures par semaine, ça te fait à peu près... 25 euros, ça te fait 100 euros de plus, tu vas... C'est le bonheur, hein.
Alors, pour aller dans ton sens, il faut savoir qu'en Allemagne, c'est intéressant quand même de le dire autant. Parce que voilà, on va faire un petit peu comme les communicants de nos gouvernants, de nos élus, qui apportent leurs chiffres et qui les lancent comme ça à la Vox Populi, hein, on va dire. Donc nous, on a des chiffres aussi, on va vous les donner, voilà, ce sont les nôtres, donc moi je me permets de vous le faire comme ça. Alors le pourcentage des chômeurs indemnisés en Allemagne, hein, est passé de 80% en 95, c'est il y a longtemps, hein, donc bien sûr, je vous parle d'une période passée, mais bon, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça a changé pas mal ce monde d'aujourd'hui. Donc il y avait 80% donc de chômeurs qui étaient indemnisés en 95, mais en 2003, il n'y en avait plus que 35%.
Ouais, alors,
ça veut dire que ces gens-là sont devenus ou bien non indemnisés, ou bien ils sont dans les temps partiels.
Partiels ou dans les minima sociaux.
Dans les minima sociaux.
Alors, je poursuis ma démonstration parce que c'est très intéressant. Donc, selon eux, sauf qu'il y a une personne qui est un spécialiste des statistiques, c'est le directeur des statistiques démographiques et sociales, Fabrice Langlard, et lui, il a dit non, faut arrêter de raconter n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que dans cette étude, seule la durée des travailleurs à temps complet serait supérieure en France à celle de l'Allemagne et les choses s'inverseraient pour ce qui concerne ceux à temps partiel. Leur durée du travail étant supérieure en France. Oui, mais voilà, le problème, c'est que Monsieur Langlard, qui est quand même pas un imbécile, directeur des statistiques démographiques et sociales, donc en gros un haut fonctionnaire ou l'équivalent, il a dit, le problème, c'est qu'on peut pas comparer ça parce que... Rixocode, ce fameux cabinet, commet une imprudence. Pour une raison, c'est qu'on peut pas mesurer ces données d'après 2003, pour la simplement bonne raison que les méthodologies, c'est-à-dire la façon de comptabiliser et de faire les enquêtes, a été refondue en 2003. Donc les mecs, ils te sortent un chiffre. Ouais. C'est énorme, ça.
Mais c'est pas même.
C'est un cabinet qui a été fait. Ouais. Tu vois, c'est le plan.
Standard & Poor's, quoi.
C'est ce plan. Non. C'est encore mieux. Ouais. Tu vois, ça me rappelle compter les supporters ou mettre des prunes. T'as des mecs qui arrivent, il y a 4 mecs qui sont passés au rouge pur, et t'en as d'autres qui ont fait mais il y en a 4 qui ont mis au rouge pur, mais il y en a d'autres qui ont accéléré quand ils passaient entre l'orange
et
le rouge. Donc on arrive à 25 avec 5 prunes au lieu de 4. Non mais c'est énorme. Et puis parce que donc ce monsieur a fait l'analyse de cette situation, donc de cette fameuse étude de Rixocode, il a dit le problème c'est qu'il y a des raccourcis super problématiques et qui donnent vertige. Hein. D'abord, établir un lien entre la durée du travail et l'importance du produit intérieur brut, de ce produit en richesse, sans le justifier. Les rédacteurs de l'étude font mine d'oublier que pour évaluer l'efficacité d'une économie à créer de la richesse utile, il faut prendre en compte aussi d'autres facteurs que la durée du travail. Si c'était le cas, la Roumanie, les pays marqués par un retard social où la durée du travail est très importante, trôneraient sur le podium de la croissance. Bah oui, ils travaillent plus que nous. Non, c'est pas le cas. Ils sont beaucoup moins développés, ils produisent beaucoup moins de richesse intérieure brute, de PIB, que nous. Et donc, ben, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il faut notamment intégrer la productivité apparente du travail, domaine dans lequel, pour de bonnes et de mauvaises raisons, la France excelle. Hein, c'est-à-dire que nous, on travaille officiellement un peu moins, mais on est beaucoup plus productif, parce que derrière, on s'est sacrément fiqué. Faut pas ignorer la productivité du capital, c'est-à-dire les valeurs ajoutées sur les capitaux investis, les machines financées, etc. Bref, Rexecode semble se faire une spécialité de l'enfumage idéologique, conclut l'article. Ainsi, début 2011, ils avaient publié une autre étude tendant à montrer que le coût du travail était plus élevé en France qu'en Allemagne, mais il s'est avéré qu'ils s'étaient appuyés sur des données erronées, bis repetita. Donc, devine ce qui s'est passé au niveau politique. C'est que Xavier Bertrand, notre cher ministre du Travail, Cohésion sociale, enfin bref, la douceur même de l'entreprise, Sarkozy, je précise, a repris évidemment la balle au bon. On le voit aujourd'hui avec l'étude qui est publiée par Corexocode sur le temps de travail. Il faut qu'on travaille davantage, a déclaré le ministre du Travail. Les accords compétitivité emploi sont aussi l'occasion de revenir sur les 35 heures. De son côté, Bernard Thibault, secrétaire national de la CGT, a dénoncé une campagne de culpabilisation des salariés, après l'effort de porte-monnaie, l'abrutissement, ajoutant que malheureusement, beaucoup de médias se laissent avoir par des études qui sont loin d'être scientifiques. Du point de vue des rémunérations, nous sommes au-dessus de la main-d'œuvre en Allemagne, et du point de vue du temps de travail, nous sommes très comparables. Voilà, alors, moi je veux bien qu'on me dise on travaille pas assez, mais dans ces cas-là, on m'augmente mon salaire, ce qui n'est pas le cas. Travailler non. Plus pour gagner plus.
Faut quand même reconnaître que je suis pas du tout socialiste. Loin de moi cette idée, c'est une idée absolument affolante. Mais quand même, faut reconnaître que les 35 heures de Madame Aubry étaient une idée excellente parce qu'elle aurait dû, normalement, a priori, créer de l'emploi. Parce que c'est en partageant le travail qu'on travaille mieux. Parce que quand on travaille 60 heures ou 45 heures dans la semaine, et ben on n'a plus le temps pour le reste. On rentre chez soi fatigué.
Mais attends, je vais te dire un truc. Mais c'est ce qui s'est passé dans les premières années.
Oui,
C'est-à-dire que tu as eu la création quand même d'un million d'emplois, emplois jeunes, on peut dire ce qu'on veut. Voilà, ça a créé entre le gouvernement Jospin, ça et de 97 à 2002, je crois, 2002, de 98 à 2009, ça a créé une croissance forte. Ça a permis notamment à pas mal d'informaticiens de rentrer sur le marché du travail. Enfin bref, ça a vraiment boosté avec la nouvelle économie, etc. Ouais. Le problème, c'est que ça a été dévoyé, parce que derrière...
Ils ont pas joué le jeu, les patrons, c'est ça, là.
Évidemment. Le but du jeu, ça a été, ok, vous faites 35 heures, mais maintenant, vous faites un contrat de 25. Voilà ce qu'on négocie, le patronat.
Là où il y a un problème, c'est que, puisqu'on en débat maintenant, là où il y a un problème, c'est quand même que maintenant, la droite française, qu'on connaît depuis toujours, c'est toujours les mêmes godillots qui sont au gouvernement, la droite française qui met en cause... la loi des 35 heures, parce que ça va dans leur sens, parce qu'ils sont là pour détricoter le code du travail, poursuivre l'exemple allemand, mais c'est pas en faisant des plans de rigueur qu'on va résoudre le problème, un, du chômage, et de l'emploi, bien sûr, puisque par effet, ni le chômage, ni l'emploi, et il faut taxer les plus grosses fortunes. C'est ça, je dis pas que ça ramènera le maximum d'argent, je dis que ça ramènera une partie du trou qui manque.
Non, il y a plusieurs problèmes, parce que là, tu fais un raccourci plein simpliste, mais si tu veux, on ouvre le débat.
J'ai fait exprès, évidemment.
Parce que tu voulais que je réagisse par rapport à ça.
Voilà.
D'accord, je vais réagir. Le premier problème numéro un, c'est qu'aujourd'hui, un petit chinois ouvrier non peu ou pas du tout qualifié, tu lui donnes deux bols de riz, il est content. Ils sont encore plus de 1000 à 5 heures du matin.
Oui, mais on va pas
de Chine. Non, mais attends, c'est un problème de fond. Ils sont encore plus de 1000 heures à 5 heures du matin devant les boîtes d'intérim chinoises pour aller travailler comme des esclaves pour aller fabriquer les iPhones. Alors que beaucoup d'entre eux se suicident ou tentent de se suicider avec des cadences infernales. Donc le problème, il est très simple, c'est qu'en France, t'as un pays actuellement qui a quasiment près de 100 à 200 millions d'ouvriers qui sont pour la plupart quand même qualifiés, parce que depuis le temps qu'ils sont la machine d'industrie du monde, ils ont acquis une certaine expérience et une compétence. Hein, parce que le Made-in chinois, c'est plus le Made-in chinois d'il y a 30 ans. On est quand même... elles ont délocalisé les boîtes françaises, américaines et européennes. Hein. Elles ont fait des transferts de technologie. Donc on peut avoir aujourd'hui du chinois qui est top niveau. Hein, ça, c'est fini. Donc le problème, tu vois, c'est que ces ouvriers-là sont à 5 heures du mat pour combien ? 100 à 200 euros par mois. Tant qu'on rétablira pas le protectionnisme, c'est-à-dire des taxes, par rapport à la situation pour que ces Chinois qui sont... sous-qualifié, mais sous-payé, c'est-à-dire exploité, ça cesse, on ne résoudra pas, le premier problème. Le deuxième problème, c'est l'harmonisation fiscale, c'est-à-dire que, On a dit qu'on allait faire une liste des paradis fiscaux. Nous, en France, on donnait le nom. On a des îles Jersey, Guernesey, tu vois, pour planquer nos capitaux. C'est français, hein. C'est anglo-français. Donc, on a la perfide Albion et Louis XVI à côté. C'est cool. Tu vois, au niveau, hein, alors déjà, premièrement, il y a l'harmonisation fiscale. Donc, va mettre les pays européens qui sont pas foutus de se foutre d'accord, à être d'accord ensemble, parce qu'en Roumanie, t'es moins taxé. Donc, ça, c'est déjà un deuxième débat. Et il y a un troisième problème, qui est effectivement la taxation des emprunts financiers. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, oui, tu travailles.
Ce qu'on appelle la taxe Tobin.
Parce que la taxe Tobin, si tu veux, t'as eu un effet pervers. C'est-à-dire que les Suédois, dans un énorme générosité, ils l'ont fait. Tu sais ce qui s'est passé?
Mais ils ont fait tout seul. Non, il fallait pas faire ça tout seul.
C'est une harmonisation fiscale européenne.
Absolument.
Voilà. Il y a déjà ça. Il y a une troisième chose, c'est dans la libre circulation des capitaux. J'ai l'impression de faire le programme d'un mec. Commence avec un M.
Dis-moi pour qui.
C'est je sais pas pourquoi, je suis inspiré ce soir.
ME je crois, non,
c'est ouais voilà. Monsieur ME. Une troisième chose, c'est que il faut arrêter de prêter aux banques à des taux préférentiels au niveau de la banque. Non mais c'est hallucinant cette histoire. Et pourtant c'est dans le traité européen. On a créé une super banque, la Banque Centrale Européenne. Qui gère des centaines de milliards d'euros. Ces mecs-là payent à un taux directeur, donc prêtent de l'argent aux banques qui elles-mêmes prêtent à des taux directeurs nettement plus. Pourquoi ? Nous endetter les États et les collectivités et plomber l'épargne et l'argent des ménages. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est une escroquerie intellectuelle. On se tire une balle dans le pied.
Alors moi, j'ai une solution à ça, c'est la renationalisation des banques.
Bah, évidemment.
Hein, ça, c'est une solution.
Au moment de la crise de 2008, Sarkozy, là, c'est, n'a pas voulu faire ça. Les Anglais sont moins idiots. Ils sont paraît-il plus libéraux que nous. N'empêche que pour la banque Northern Rock, qui finançait carrément une région entière, ils nous ont nationalisé. Les conneries, c'est fini. Voilà. Donc, ça, mais c'est évident.
Alors, l'idée d'Emmanuel Todd, entre autres, d'effectivement faire un protectionnisme européen, et n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut en venir, effectivement, à protéger nos frontières en termes de concurrence, en termes de libre-échange, de circulation des biens et des services, évidemment, c'est vrai qu'on peut effectivement faire une douane spécifique pour les biens et les services au niveau européen. Mais comme on voit, comme ils s'entendent absolument pas en Europe, c'est-à-dire que l'euro actuellement est le moins bien disant, on va dire, parce que c'est en rupture de banc, hein, on va dire ça comme ça, cause de la crise, cause de plein de choses, etc., des options politiques des gouvernements qui n'ont pas fait les bons choix à l'époque, etc.
Attention, c'est les spéculateurs.
Oui, c'est spéculateurs. Oui.
C'est les fonds de pension et les fonds américains,
oui,
et chinois et des pays émergents qui ont, via ces entreprises de spéculation, qu'on appelle les hedge funds, etc.,
ouais,
qui ont attaqué la monnaie.
Absolument. Non, je suis d'accord.
Bon. Ouais.
Enfin bon, merci Christophe. On a ouvert beaucoup de débats ce soir. J'espère qu'on pourra en ouvrir la prochaine fois aussi. Si vous avez des interventions, vous pouvez toujours nous écrire ou même nous parler la prochaine fois. C'était ce micro. Notre prochaine émission, c'est dans 15 jours. Voilà. Cette émission se termine. Merci Christophe d'avoir été là. Merci à Claude, à la technique. Merci à moi-même d'avoir participé aussi. Et bien sûr, je vous embrasse tous et toutes et je vous dis à dans 15 jours. Au revoir.
Bonsoir.